Bien sûr, c'est les conséquences de l'affaire Liana, comme je vous le disais, qui nous préoccupent ce soir. Conséquences judiciaires, conséquences juridiques, conséquences politiques que l'on va traiter avec nos envoyés spéciaux, avec nos invités ici sur le plateau de BFM TV. On va aller à Fleurance, dans le Gers, retrouver Mathéo Rivière en direct pour BFM TV, parce que Mathéo, d'ici quelques minutes, c'est donc l'avocat des parents qui va prendre la parole des parents de Liana.
Oui, une déclaration officielle de l'avocat de la famille au nom des parents de Liana qui est imminente, qui devrait débuter d'ici quelques minutes devant le perron de la mairie de Fleurance où vous le voyez, plusieurs journalistes sont déjà arrivés. Selon nos informations, les parents de Liana, Martial et Charline, ne seront pas présents lors de cette prise de parole exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle ? Parce qu'il s'agit de la première fois depuis la découverte du corps de Liana que l'avocat de la famille s'exprime. On l'avait bien évidemment aperçu aux côtés de la famille lors de cette marche blanche dimanche à Fleurance, mais il ne s'était encore jamais exprimé. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que l'on va tenter de découvrir. Va-t-il évoquer les ressentis de l'affaire ce soir, les ressentis de la famille sur cette enquête ? Va-t-il évoquer les antécédents judiciaires de Jérôme Barella ? Ou bien, dernière hypothèse, va-t-il lui aussi pointer les défaillances judiciaires comme a pu le faire l'avocat de la mère de Rosa en début d'après-midi à Toulouse ? Tout cela reste à déterminer. On devrait avoir une réponse d'ici quelques minutes. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la suite de cette déclaration officielle, l'avocat de la famille de Liana ne répondra à aucune question des journalistes ici.
Mathéo Rivière avec Déborah Roch en direct de Fleurance pour BFM TV.
Mélanie Bertrand, bonsoir. Effectivement, on attend avec intérêt la prise de parole de l'avocat des parents de la petite Liana. D'autant plus qu'un peu plus tôt, on a entendu l'avocat d'Audrey, la mère de Rosa, dire qu'il voulait porter plainte, une série de plaintes d'ailleurs, contre l'État. On peut imaginer que ça sera la même chose du côté de la famille de Liana ?
Oui, c'est une possibilité. Effectivement, ce matin, on a eu les mots très forts de l'avocat de la maman de la petite Rosa, cette petite fille qui a déposé plainte en août 2025, en août dernier, sans qu'il n'y ait de garde à vue de Jérôme Barella. On en a énormément parlé sur notre antenne. Cet avocat, il a annoncé ce midi qu'il déposait plusieurs plaintes, notamment une plainte contre l'État pour faute lourde, pour en quelque sorte manquement à ses obligations. Ça rappelle l'affaire Estelle Mouzin. Vous savez, le papa d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, avait aussi déposé plainte et a fait condamner l'État pour faute lourde. C'est la même chose pour la famille de Nathalie Debailly, cette femme qui est morte sous les coups de son ex-conjoint. Là encore, elle avait déposé plainte. Là encore, il y avait eu des dysfonctionnements importants. Là aussi, l'État avait été condamné pour faute lourde. L'avocat de la mère de la petite Rosa annonce aussi déposer plainte à la fois contre les procureurs de Toulouse, d'Auch, les enquêteurs qui ont sans doute peut-être mal fait leur travail ou en tout cas peut-être pas suffisamment. L'avocat a dit ils n'ont pas donné instruction d'arrestation et c'est en quelque sorte la fin tragique que l'on connaît dans l'affaire Liana, mais qui n'a, en tout cas pour le cas de la petite Rosa, ce suspect n'a toujours pas été placé en garde à vue. Et puis, il annonce aussi, et il a été très ferme là-dessus, déposer plainte devant la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, pour finalement les mêmes motifs, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger.
Maître Courvoisier, ces plaintes, bonsoir, peuvent aboutir vraiment, ces plaintes contre l'État ?
Alors, je ne sais pas si elles peuvent aboutir. En tout cas, le dépôt de ces plaintes et l'annonce de ces plaintes, je pense, est un heureux événement dans cette tragédie que tout le monde est en train de vivre. Je pense que c'est également une bonne technique de la part de mon confrère. Pourquoi ? Parce que cela va permettre, en réalité, plusieurs enquêtes confiées à des magistrats qui seront différents. Il y a une enquête administrative sur les dysfonctionnements et donc il y aura des enquêtes judiciaires pour des infractions. Et donc, c'est très bien.
C'est-à-dire que des magistrats vont enquêter sur d'autres magistrats ?
Oui, en France, des magistrats avec des policiers en dessous ou des gendarmes, mais en tout cas il y aura donc plusieurs enquêtes menées dans des cadres juridiques qui sont un peu différents et ça permettra évidemment à la famille d'avoir accès très certainement à certaines informations auxquelles elle n'aurait pas forcément accès dans le cadre de l'enquête administrative.
Et pour obtenir quoi, des indemnités ?
Pour obtenir, je pense, un, la condamnation de l'État français pour le fait de ne pas accorder suffisamment de moyens à la justice d'une part, pour peut-être faire condamner pour des fautes individuelles d'autre part, et pour qu'à un moment donné, je pense, ce système que beaucoup appellent un système d'impunité, je ne partage pas ce terme, mais je le dis sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup dit, pour que ce système, à un moment donné, s'arrête, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'autres affaires comme ça, même si c'est un espoir qui est très certainement vain, parce qu'on ne pourra pas tout empêcher, mais en tout cas faire en sorte qu'il y ait moins d'affaires de ce style-là qui sont parfaitement insupportables.
Depuis le drame Liana, on a beaucoup entendu parler des délais de la justice, de la justice longue, de ces errements, mais là, une plainte contre l'État, une plainte contre un ministre, ça va prendre combien de temps, maître ?
ça risque de prendre des années, mais en début d'après-midi, j'étais par exemple au tribunal correctionnel de Bobigny. On va juger en fin d'année 2026 des faits de 2016 et 2017. Vous voyez,
quel type de faits ?
Alors, ce sont des
dix
faits.
Dix ans après,
ce sont des faits de blanchiment, de faux, de corruption. Et j'ai un autre dossier de trafic de stupéfiants qui sera également jugé en fin d'année pour des faits de 2013 à 2015. C'est pour vous dire à quel point j'entends ce qui se passe à l'heure actuelle, mais nous, c'est aussi un peu notre quotidien. Alors, heureusement, entre guillemets, que la fin n'est pas aussi tragique, mais c'est ça l'état de la France aujourd'hui et de la justice française dans nos tribunaux du quotidien. Et là, on ne vous parle que du pénal, mais je pourrais vous parler du JAF avec des délais où on attend 10
c'est
mois,
le juge 11 des
mois,
affaires familiales.
Tout à fait, 10 mois, 11 mois, 12 mois pour voir un juge d'affaires familiales qui va trancher la question de la résidence principale d'enfants mineurs et de la pension alimentaire. Et je pense que d'autres confrères pourraient vous parler du tribunal des affaires de la sécurité sociale, etc., etc.
Mais quand Sébastien Lecornu, qui commence à faire des annonces et qui propose notamment que les actes d'enquête sur les crimes contre les enfants soient effectués dans un délai maximal de 3 mois, est-ce que c'est possible ou c'est de la com ?
C'est de la com,
voilà. Eva Darlan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne et vous étiez hier place Vendôme. À Paris.
C'est ma place.
Pourquoi ?
C'était notre place à tous et à toutes. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même, personnellement, à peu près 15 ans, entre 15 et 20 ans, qu'on demande la même chose aux gouvernements successifs qui ne bougent pas, ni les uns ni les autres, et particulièrement celui-ci. Quand il est arrivé au pouvoir, Macron a parlé de s'intéresser aux femmes, de grandes causes nationales. Il a toujours refusé, il y a une vraie volonté de ne pas agir, parce que toutes les recommandations, on les a faites, toutes les demandes, on les a proposées. On avait des dossiers, j'ai personnellement rencontré le Premier ministre avec des dossiers...
Lequel ? Parce qu'il y en a eu plusieurs, hein,
ah,
sous
oui,
Macron.
Ah oui, c'est vrai.
Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean Castex, Madame Borne.
Édouard Philippe, qui a été stupéfait de savoir qu'il y avait des violences en France contre les femmes et contre les enfants, parce que lui, personnellement, dans sa famille, il n'y en avait pas.
C'est ce qu'il vous a raconté ?
Mais comment, devant témoin ?
Ah oui ?
Bien sûr. Nous étions une délégation de 3 femmes. Il y avait Karine Plassard, il y avait Muriel Robin, il y avait moi. Il y avait cette espèce de pseudo... ministre pour les femmes.
Madame Schiappa.
Ah, un truc comme ça. Et Edouard a dit que, ben, vraiment, mais il fallait s'en occuper vachement vite. D'ailleurs, ouf, il avait un rendez-vous, il fallait qu'il parte. Voilà, moi, j'ai ramené tout. Il y avait tout. On avait fait des choses extraordinaires.
Donc, depuis ce rendez-vous, et là, avec le drame de l'affaire.
Ils n'ont rien fait, jamais.
Liana, mais comment vous avez réagi en entendant les errements de la justice, du dépôt de plainte qui n'avait pas été
traité ? C'est une question d'habitude.
Avec l'affaire Liana.
On sait qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, donc forcément. Les juges et les magistrats ne peuvent rien faire. Alors maintenant, quand ils osent dire c'est la faute des magistrats, je trouve ça un tout petit peu gonflé.
Mais est-ce
parce qu'ils n'ont rien fait au départ. Ils n'ont pas donné d'argent. Macron n'a pas voulu donner d'argent. Au départ, il y a 15 ans, il y a 10 ans, on demandait 1 million.
Alors attendez, on vous interrompt, Eva, parce que l'avocat arrive. L'avocate des parents liens.
D'ailleurs,
Maître Roujou de Boubé. Maître François Roujou de Boubé.
Avec le maire derrière.
Merci. Et le maire de Florence derrière.
Et à Paris. Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui à la demande de la famille pour porter leur voix. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est tout d'abord pour vous dire merci. Merci d'avoir été présent pendant les recherches pour retrouver la petite Liana. Merci pour votre mobilisation à tous pendant cette épreuve. Et merci à l'ensemble de la gendarmerie du Gers et à la mairie de Florence pour leur soutien. Nous tenons aujourd'hui à souligner la qualité de l'enquête sous l'égide du parquet d'Auch et du traitement de ce dossier pour retrouver cet enfant. Mais après ce drame, il y a une question. Comment cela a pu arriver ? Alors je ne suis ni enquêteur, ni politicien, je suis l'avocat de la famille et j'ai eu accès au dossier. Et par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, Monsieur le Président, c'est le vrai cœur du problème. J'ai vu des gendarmes, des policiers, des magistrats et des greffiers crouler sous les piles de dossiers à traiter. J'ai vu les mêmes se battre pour des post-it ou des ramettes de papier, on en est là. J'ai vu des décisions de justice qui n'étaient pas appliquées, faute d'avoir du personnel pour pouvoir le faire. J'ai vu des experts refuser leur mission car ils avaient trop de travail. J'ai vu des rapports d'expertise être rendus 6 mois après qu'on les avait demandés. J'ai vu des instructions judiciaires pour viol durer des années, car il n'y a pas assez de juges, pas de place en audience. J'ai vu des magistrats désespérés, car ils n'avaient plus les moyens de leur faire leur office dans de bonnes conditions. A-t-on oublié la tribune des 3000 magistrats suite au suicide de l'un d'eux ? Je vous demanderai donc un peu de respect. Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'espère que personne n'est dupe, c'est impossible, à moins de mal faire son travail. J'étais en audience ce matin et les dossiers qui ont dû être renvoyés ont été renvoyés en novembre, car le magistrat a estimé, à juste titre, qu'on ne traitait pas bien les dossiers à 23 heures quand on commence une audience à 8h30. En novembre, c'est encore tôt. Maintenant, c'est en 2027. Allez expliquer cela aux victimes. J'ai assisté des victimes de viol à la cour d'assises pour des audiences jusqu'à 4 heures du matin. Il y a des centaines de plaintes depuis 2025 pour viol ou agression sexuelle au parquet d'Auch et seulement un procureur pour les traiter. Vous trouvez ça sérieux ? Je vois nos voisins européens avoir 4 fois plus de procureurs, de magistrats et de greffiers, ce qui réduit par 4 le délai de traitement. La France consacre la plus petite partie de son budget à la justice. Que vous faut-il de plus ? Attribuer la responsabilité de ce drame à l'institution judiciaire serait un non-sens absolu et cela serait se tromper de responsable. Je rappelle qu'ici, en ce lieu, je suis le seul à avoir accès au dossier que j'ai bien sûr montré à la famille. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'il y a eu des dysfonctionnements alors qu'on n'a pas eu accès à ce même dossier ? N'oublions pas que si le corps de Liana a pu être retrouvé, c'est grâce à la mobilisation de la gendarmerie du Gers sous les ordres du procureur de la République, d'Auch. Retrouver son corps tient du miracle. Et combien de parents n'ont pas eu cette chance ? Je le dis en toute franchise, si la justice avait eu plus de moyens, ce drame et tous les autres auraient pu être évités. La famille de la victime que je représente, nous avons confiance en la justice. Alors maintenant, ça suffit. Nous ne voulons pas de loi ou de réforme. Nous ne voulons pas de récupération. Juste des moyens et l'efficacité de ces moyens. La robe que je porte me hurle de vous demander plus de moyens. Donc oui, aujourd'hui est un jour de colère. Je ne peux plus me taire quand on met en cause des institutions judiciaires déjà à bout de souffle, garantes pourtant de l'état de droit. Que chacun prenne ses responsabilités, y compris au plus haut sommet de l'État, et qu'on ne s'y trompe pas. Combien faudrait-il de Liana pour que nous soyons enfin entendus ? Maintenant, laissons la justice faire son œuvre. Accordez à la justice les moyens de bien faire son travail et pas des miettes du budget. Après-demain, nous enterrerons un enfant, une enfant du pays. Soyez assurés que ce crime ne restera pas impuni, j'en fais aussi mon affaire. Mais ne nous trompons pas de combat pour Liana et pour celles et ceux qui viendront après. Je vous remercie.
Est-ce que votre la famille a porté plainte ou pas ? L'avocat de la famille ne répondra à aucune question. Merci.
C'était donc la prise de parole de maître François Rougeau de Boubet. Il était avec à ses côtés le maire de Florence, mais ce que l'on a entendu dans la bouche de l'avocat, c'est presque des accusations.
Oui.
Des accusations contre le pouvoir politique essentiellement qui ne donne pas les moyens à la justice de travailler. C'est ce qu'il a dit.
Bien sûr, un avocat qui énumère tous les dysfonctionnements qu'il vit au quotidien quand il se rend au tribunal, les audiences jusqu'à 4 heures du matin, 4 fois plus de procureurs et de greffiers chez nos voisins. On parle pas assez des greffiers parce que dans un cabinet d'instruction, vous le savez, maître, il y a bien mieux que moi, il y a le juge et il y a son greffier. C'est vraiment une équipe et un binôme. Il y a 1 an et demi, 2 ans, les greffiers en France ont hurlé leur manque de moyens. On les a soutenus à BFM TV. On était peu à les soutenir. Ils sont très importants. Manque de greffiers. Comment peut-on parler de dysfonctionnement aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas eu accès au dossier? Et puis cette phrase, la robe que je porte, moi, avocat, me hurle de vous demander plus de moyens. C'est-à-dire que cet avocat, il a protégé les gendarmes locaux, il a protégé les magistrats locaux, que tout le monde fusille, et il dit que ça n'est pas le problème des magistrats et c'est pas un problème local, c'est un problème de fonctionnement, ça vient du haut de l'État, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame, ça vient du haut de l'État, c'est tout en haut de l'État qu'on doit nous donner des moyens.
On a entendu Monsieur le Président, il s'est adressé au chef de l'État.
On a entendu Monsieur le Président, absolument. Ouais. Et très vite, étudier 70 000 plaintes jusqu'au 15 juillet, c'est ce qui a été demandé.
eh bien, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous le disiez, maître, ça ne peut pas marcher, c'est impossible.
En fait, il va à contre-courant de ce que dit Gérald Darmanin depuis plusieurs jours, qui, et même Emmanuel Macron avant lui, qui disait qu'on ne me parle pas de problème de moyens, c'est vraisemblablement une responsabilité individuelle. Et ça a hérissé beaucoup de magistrats que, dès les premiers jours de l'enquête, les autorités, le gouvernement pointent la procureure d'Auch, effectivement, ça a vraiment créé une très forte émotion.
La magistrature a répondu.
Oui, le Conseil supérieur de la magistrature.
En disant que c'était un peu de discréditer des milliers de magistrats.
Exactement. Je regrette le discrédit jeté sur des milliers de magistrats. Et donc cet avocat aujourd'hui, il vient porter une voix totalement différente de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Il souligne, et il a raison, que c'est grâce au travail des gendarmes sur instruction du parquet d'Auch et aussi grâce à un témoignage humain que le corps de la petite Liana a été retrouvé. Il donne des exemples. J'ai vu des gendarmes crouler sous des dossiers. J'ai vu des décisions non appliquées, des experts refuser des missions parce qu'ils avaient trop de travail, ou encore des instructions pour viol à l'arrêt car il n'y avait pas assez de moyens. Et pour lui, c'est vraiment cette question des moyens qui est fondamentale dans ce dossier, et peut-être pas de responsabilité individuelle. En tout cas, c'est l'un des... Enfin, au cœur de ce dossier, c'est vraiment l'une des voix qui est un peu dissonante par rapport à toute la petite musique que l'on entend qui tend à pointer des responsabilités très individuelles.
Pardon, il ne demande pas de sanctions, contrairement à l'avocat qu'on a entendu ce matin de Rosa. Oui, il ne demande pas de sanctions
d'Audrey,
contre l'État.
La mère de
Mais
la
c'est vrai que les deux
Rosa,
affaires sont différentes.
Oui.
L'affaire de Liana, elle est quelque part la conséquence de l'affaire de Rosa.
Bien sûr.
Et si cet homme avait été interpellé plus tôt, placé en garde à vue, et même sans être placé en détention, mais qu'il ait eu froid dans le dos sur ce qui pouvait lui arriver, et surtout la surveillance qui s'opérait sur lui, il n'y aurait peut-être pas eu de Liana.
Oui, mais il dit pointer l'institution judiciaire serait une erreur absolue.
Bien sûr, absolument.
Donc il est...
oui, mais pourquoi opposer finalement manque de moyens et responsabilité individuelle? C'est peut-être les deux.
Alors,
c'est peut-être à la fois un manque de moyens et aussi quand même parfois des problèmes de responsabilité individuelle, parce qu'on a toujours quand même une question sans réponse. Pourquoi a-t-on attendu des mois dans l'affaire de la petite Rosa avant de décider d'interpeller l'homme en question, d'ailleurs qu'il n'a jamais été, puisque malheureusement cet ordre qui avait été donné par la procureure n'a pas été exécuté.
Ce qui est très intéressant, c'est que mon confrère intervient d'abord en tant qu'avocat, c'est-à-dire qu'il porte la parole de la famille de la victime.
Oui.
Mais, et c'est très intéressant aussi, et je pense qu'il faut vraiment l'écouter, parce que c'est un avocat du barreau d'Auch, si je ne m'abuse, et qui connaît bien le fonctionnement de ce petit barreau. Il doit bien connaître les gendarmes pour être régulièrement à leur contact et très certainement assister des gardés à vue, parce qu'il ne défend peut-être pas que les victimes, ça nous arrive de faire et l'un et l'autre, et donc il doit être confronté à ces problèmes du quotidien, et il doit entendre, comme nous on entend en région parisienne, des policiers et des gendarmes dire « mais nous on n'en peut plus ». Il doit aussi entendre des greffiers dire « moi j'ai terminé à 4h du matin, je dois être de retour à 8h30 parce que je tiens l'audience là, demain je fais les comparutions médiates, je suis de permanence ce week-end, etc. »
Oui, mais
etc.
Dans un petit parquet comme celui de Auch, est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Et lorsqu'une petite fille avec des analyses médicales à l'appui témoigne de viol à la fois vaginal et anal, est-ce que ce n'est pas prioritaire justement dans un petit parquet où on ne peut pas tout traiter?
Alors moi je suis totalement d'accord
avec
vous.
C'est pour ça que je dis attention de ne pas écarter non plus les responsabilités individuelles. Pourquoi on a fait des non-choix
et
en fait?
Et on le saura très certainement rapidement, puisqu'il me semble que le délai c'est 15 jours, en tout cas c'est le 15 juin pour avoir le retour de cette première enquête. C'est peut-être un peu court, mais
ce sera rendu le 19 juin à annoncer
l'enquête administrative.
Absolument.
Oui, mais vous voyez, mais en fait c'est comme s'il répondait à son confrère, l'avocat d'Audrey, la maman de la petite Rosa, qui disait cet après-midi « J'aimerais aussi dénoncer une autre réalité que je vois au quotidien, celle de magistrats qui travaillent quatre fois moins que leurs collègues, celle d'enquêteurs paresseux, des vrais fainéants qui sont à l'origine de ce drame humain. »
Mais on est sur deux histoires différentes.
Lui aussi, cet avocat, il parle d'une réalité qu'il vit au quotidien.
Exactement.
Oui.
Exactement. Et c'est
donc il y a quand même des magistrats qui travaillent beaucoup moins que d'autres, qui font mal leur boulot ou pas leur boulot.
Et visiblement, mon confrère, bien sûr,
professionnelle,
il y en a
dans tous les milieux.
Tous les
magistrats
et visiblement, ce confrère qui n'a pas la même position que l'avocat des parents de Liana a une expérience et vient la raconter, et il faut aussi l'entendre.
On peut parler de faute professionnelle de temps en temps dans la magistrature, l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas évoquer alors qu'on l'évoque dans toutes les autres professions.
En fait, il faut bien comprendre que la magistrature étant indépendante, en sachant que moi je ne fais pas ces procédures-là, mais je vous explique dans les grandes lignes, le magistrat est indépendant, c'est-à-dire que lorsqu'il remet quelqu'un en liberté, qu'il a respecté la loi, il n'encourt pas ni de sanctions disciplinaires, ni de sanctions pénales. Vous voyez, il a respecté le cadre de la loi. Quand un juge d'application des peines aménage une peine, il respecte la loi. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on fait un peu un amalgame entre une responsabilité parce qu'on n'est pas content du quantum d'une peine, qu'on n'est pas content d'une décision pénale.
Non, mais là, on n'est pas content d'une non-décision.
Exactement. Et éventuellement, une faute disciplinaire parce qu'il y a eu un mauvais traitement, il y a eu une décision, par exemple, d'affectation dans une brigade qui n'était pas compétente, où il y a eu tout simplement une négligence, c'est-à-dire on n'a pas agi suffisamment rapidement. Et je suis d'accord avec vous, quand on a une plainte en août, un certificat médical venant attester qu'il y a eu viol, peut-être pas de la part de ce monsieur, on ne sait pas, il est présumé innocent, mais en tout cas, on sait qu'il y a viol, qu'il ne se passe rien derrière, qu'un transfert de plainte
pendant des mois.
C'est pas entendable et c'est lamentable. Ça l'est dans les autres dossiers et ça l'est dans celui-là, c'est lamentable.
Oui, mais voyez, pardon de citer aussi, parce qu'il y a beaucoup de voix, on entend beaucoup de voix, mais celle de Rémy Hetz. Rémy Hetz, c'est le procureur général près la Cour de cassation, c'est le plus haut magistrat de France. Voilà ce qu'il disait. Il faut absolument tout mettre à plat pour que plus jamais une telle catastrophe judiciaire ne se reproduise. Donc, en tant que plus haut magistrat de France, il reconnaît quand même une responsabilité dans la machine judiciaire, dans la mécanique, pour dire que ça ne va pas, que ça tourne plus rond.
Mais la mécanique ne peut pas marcher sans argent. Ça peut, s'il n'y a pas assez de magistrats, ça peut pas rouler. S'il n'y a pas assez d'ordinateurs, ça peut pas marcher. Si on est obligé d'aller à pied porter le courrier, ça peut pas marcher. Donc c'est.
Enfin, le courrier, on peut l'envoyer par mail et pas par courrier postal aussi.
Il n'avait pas d'ordinateur.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une
entreprise que j'ai lue.
Pas d'ordinateur au parquet de Toulouse.
Et on peut très bien envoyer des mails avec un caractère urgent pour signaler. Pas toute la procédure peut-être.
Mais d'aller en courrier quand même.
Qu'il y a un caractère urgent.
Ce qu'il faut savoir, dans une audience correctionnelle type, il faut 3 magistrats, un procureur, un greffier, un huissier audiencé.
On peut pas alléger tout ça d'ailleurs, on pourrait pas alléger les procédures.
Est-ce que les tribunaux sont pas encombrés aussi par des affaires qui n'ont pas allé devant des tribunaux?
Si, vous savez, ces 20 dernières années, on a correctionnalisé par exemple le droit de la route. Aujourd'hui, quasiment 40%, si je ne m'abuse, 40% des infractions jugées en France, des délits, ce sont des délits routiers. Toute la journée à Paris, à Bobigny, à Nanterre, vous avez ce qu'on appelle les CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, où vous avez des gens qui ont roulé à 170 au lieu de 50, qui ont conduit alcoolisé, qui ont conduit sous stup, et donc ils sont jugés 10 fois, 15 fois, 30 fois. Et ça encombre quoi? Un procureur, un greffier, et l'après-midi, un magistrat.
Et les procès en diffamation. Pardon, mais je vais prendre deux exemples de deux côtés différents, on va dire. On a interpellé des agriculteurs pour des posts Facebook. On a interpellé Rima Hassan pour un tweet sur la Palestine. Sincèrement, la justice a du temps à perdre pour ce genre de choses qui vont. On sait bien que c'est des petites affaires qui aboutiront à rien. Alors, on peut pas nous dire dans un. On n'a pas assez de moyens. C'est trop lent, etc. Et s'intéresser à ce genre de choses.
Alors là, c'est même pas du temps qu'on a, c'est de l'argent à gaspiller parce qu'il faut savoir combien ça coûte une garde à vue. Vous mobilisez des OPJ, vous mobilisez parfois, pourquoi pas, des avocats de permanence qui sont payés à l'aide juridictionnelle. Vous mobilisez, pourquoi pas, un expert, un médecin de garde pour respecter les droits des gardés à vue. Vous mobilisez ensuite, pourquoi pas, un magistrat s'il y a des ferments, etc. Tout ça.
Donc la judiciarisation de la vie publique encombre les tribunaux.
On va retourner à Florence, donc devant le parvis de l'Hôtel de Ville, retrouver Mathéo Rivière en direct pour BFM TV parce qu'on vient de suivre l'avocat de la famille de Liana. Ça a été très court, mais ça a été très précis et très ferme, les accusations de l'avocat, Mathéo.
Oui, très court mais très ferme, comme vous dites, l'avocat qui s'est exprimé il y a quelques minutes ici devant le perron de la mairie aux côtés du maire de Florence, qui a débuté en remerciant d'abord cette mobilisation citoyenne d'un côté, cette mobilisation des forces de l'ordre de l'autre, tout au long de cette première semaine lors de la disparition de Liana, pour retrouver le corps de Liana, mais qui au contraire donc de l'avocat de la maire de Rosa, eh bien, pointe un manque de moyens de la justice pour traiter ces affaires concernant des violences sexuelles, des violences physique visant les enfants, la famille qui demande à ne pas se tromper de combat, qui poursuit donc en approuvant toute sa confiance envers la justice, d'accorder à la justice de bien faire son travail. Une famille qui déplore le manque de budget accordé à la justice de la part de l'État. Écoutez justement ces quelques mots que nous avons pu récolter il y a quelques minutes.
Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'espère que personne n'est dupe, c'est impossible, à moins de mal faire son travail. J'étais en audience ce matin et les dossiers qui ont dû être renvoyés ont été renvoyés en novembre, car le magistrat a estimé, à juste titre, qu'on ne traitait pas bien les dossiers à 23 h quand on commence une audience à 8 h 30.
L'avocat de la famille de Liana qui a conclu cette déclaration officielle en rappelant une date importante des prochains jours, ces obsèques qui auront lieu ici à Florence vendredi à 14h30.
Matteo Rivière avec Déborah Roch à Florence, donc dans le Gers, où l'avocat de la famille de Liana, François Roujou de Boubé, vient de prendre la parole.
Alors, il faut aussi revenir sur ce qu'a annoncé le Premier ministre, qui a réuni pendant 1h30 plusieurs ministres à Matignon, Marie Chantrey, sur la protection de l'enfance et les violences sexuelles. Et des premières mesures ont été annoncées par Sébastien Lecornu.
Oui, en effet, et des mesures annoncées dans un cadre qui doit être noté en réponse à une question à la présidente du groupe Rassemblement National, Marine Le Pen, qui a eu là aussi des mots très forts. Tous les groupes...
Ah ben, on va écouter Marine Le Pen.
Je ne pensais pas le lancer, mais...
Cette petite fille a été sacrifiée sur l'autel de la nonchalance d'un État dont l'appareil judiciaire a failli. Un État englué dans le déni de l'explosion de la criminalité contre les enfants et la culture généralisée du pas de vague. Ce drame s'inscrit dans un tableau d'ensemble qui s'avère révélation après révélation proprement effrayant et accablant. Il intervient après l'affaire du périscolaire parisien qui a révélé une ampleur de mise en cause qui dépasse manifestement la faute individuelle, alors même que le silence a protégé les bourreaux et le laisser-faire livrer les jeunes et malheureuses victimes à l'indicible et à l'irréparable.
Attends. Alors, Marie, donc, question de Marine Le Pen et réponse de Sébastien Lecornu.
Oui, en effet, avec des annonces fortes, notamment concernant l'aggravation des peines en cas de viol en série concernant des mineurs. 20 ans d'emprisonnement, je parle sous votre contrôle, qui passerait donc à la perpétuité. Cela doit passer par un projet de loi voté prochainement. Il y a une accélération du calendrier parlementaire. Ce sera étudié à partir du 15 juillet prochain à l'occasion d'une session extraordinaire au Parlement. Il y a aussi la modification de la règle de la prescription, l'information aussi des victimes tout au long de la procédure, ce qui a, semble-t-il, manqué dans le cas notamment de la petite Rosa, cette maman qui demandait aux gendarmes où en était son affaire, si le suspect avait été entendu, et des gendarmes qui lui ont quand même répondu « Arrêtez madame, ça confère au harcèlement ». Ça, du côté de la chancellerie et du ministère de l'Intérieur, ça n'est pas passé du tout. Donc il faut que les victimes soient informées de là où en est leur dossier. Et puis aussi, motiver et informer les parties de pourquoi des décisions sont classées sans suite. Là aussi, c'est une volonté d'accélérer de la part du garde des Sceaux.
Une fois de plus, un drame, une loi, quoi, en fait.
Oui, et c'est vrai que ça va peut-être aussi à l'encontre de ce que plaident certains politiques, même si certains disent halte à la récupération, un fait divers, un drame terrible et une loi faite sur l'émotion. Je ne me fais pas le défenseur du gouvernement aujourd'hui. Ce projet de loi lié à l'enfance et à la pédocriminalité était sur le bureau du gouvernement et du Conseil des ministres bien avant le drame
de la petite Liana. Ce qu'on appelle la loi intégrale.
Justement, on va la regarder, cette loi intégrale, puisqu'elle revient dans le débat avec vous, Nargis Hadji. Précisément, de quoi s'agit-il ? Bonsoir.
Bonsoir Alain. Il s'agit donc d'un projet de loi porté par la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez, co-signé par une centaine de députés de gauche et du centre. Le texte existe déjà, Marie en parlait, mais depuis fin 2025, eh bien, il est au point mort. Et aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que de nombreuses associations féministes, mais aussi de protection de l'enfance, demandent son inscription en urgence à l'agenda parlementaire. On parle de loi intégrale car son but est de couvrir tous les domaines où la violence s'exerce. La justice, la police, la santé, l'éducation ou encore le travail. Environ 80 mesures. Nous avons sélectionné quelques exemples. Dans le domaine de la justice, la création d'unités de police et de juridictions spécialisées dans les violences sexuelles. Dans le domaine de l'éducation, un entretien chaque année pour chaque enfant, dès la maternelle, l'objectif dépister ou tenter de dépister d'éventuelles violences. Pour la santé, un plan de lutte contre les violences gynécologiques. Les auteurs assurent que cette loi est prête, opérationnelle, immédiatement actionnable. Son coût, 2,7 milliards d'euros. Alors ça peut sembler colossal, mais la députée à l'origine de ce projet de loi avance cet argument. Le coût des violences faites aux femmes et aux enfants, c'est 90 milliards d'euros par an. Yael Braun-Pivet a demandé au président de la République la convocation d'une session extraordinaire dans les prochaines semaines. L'objectif, que ce texte puisse enfin être examiné par le Parlement. Il faut savoir, on l'a appris il y a plusieurs dizaines de minutes, le Premier ministre recevra les députés partisans du texte sur les violences sexistes et sexuelles en fin de semaine.
Mais Maître Courvoisier, je voudrais comprendre, cette loi intégrale, on en a besoin ou tout est déjà dans le code pénal ?
Alors, je ne connais pas les détails de cette loi intégrale, je ne l'ai pas regardée dans sa globalité pour être tout à fait honnête. Ce qui est certain, c'est que pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et d'une manière générale toutes les violences, il faut que ça soit multidomaine. Il est évident qu'il faut associer la police, la justice, mais également l'éducation, le travail, la santé. Donc sur le principe, ça ne peut qu'être bien. Après, il faut voir en matière pénale qu'est-ce qui se passe. J'entendais effectivement tout à l'heure Monsieur Lecornu, j'ai vu son tweet, dire qu'il allait augmenter le risque de peine maximale encourue dans le cadre de multirécidivisme pédocriminel. Je tiens quand même à dire, et pour le principe, pourquoi pas, parce que je pense que l'opinion publique en a besoin, mais quand un pédocriminel passe à l'acte, et je suis désolée de le dire, mais lorsqu'il est en train de passer à l'acte, il ne pense pas à ce qu'il risque, en fait. Il faut réussir à détecter cela avant, et il faut réussir sur la première alerte à faire un article 40. Pourquoi
pas
réussi
avec Monsieur Barrett.
Qu'est-ce que c'est que l'article 40?
Alors l'article 40, c'est lorsque vous êtes au courant d'une infraction, notamment quand vous êtes dépositaire d'une mission de service public ou d'autorité publique, vous signalez au procureur de la République des faits que vous pensez peut-être être une infraction. Je vous donne un exemple. Monsieur Barella a été en 2017 apparemment licencié. En tout cas, son travail s'est arrêté parce qu'il aurait eu un comportement inapproprié avec une lycéenne. On ne sait pas si c'est une infraction ou pas. Mais à ce moment-là, on a quelqu'un qui est un adulte majeur, qui a un comportement inapproprié de nature quand même à mettre fin à son contrat. Quelqu'un aurait pu faire un article 40.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il est convoqué, il est entendu, on s'intéresse à lui, on fait quoi?
Alors, si le parquet reçoit cet article 40, il peut décider d'ouvrir une enquête et enquêter un petit peu sur les contours de ce monsieur, son environnement familial, son environnement professionnel et récupérer un certain nombre d'informations.
Mais ce que dit Gérald Darmanin quand même, qui soutient cette loi intégrale, il dit « aucune des dispositions de cette loi n'aurait répondu dans le cas précis au drame ».
Oui, ce qui peut paraître contre-intuitif quand ils mettent en avant… Encore une fois, précision, la loi intégrale que vous avez présentée, Nargis Adji, ce n'est pas celle qui va être débattue au Parlement au mois de juillet.
Non.
C'est une loi...
Celle-là, elle est déjà, elle circule déjà, cette loi intégrale, mais...
Oui, elle est proposée.
Voilà, elle est proposée.
C'est une proposition de loi transpartisane, portée notamment par une députée socialiste, celle que défendent aujourd'hui notamment le Premier ministre. Elle a été présentée en Conseil des ministres il y a 15 jours maintenant. Et ce que propose le Premier ministre, c'est de piocher des mesures présente dans la loi intégrale. On parlait du délai de prescription, on parlait notamment de peine à perpétuité en cas de mise en cause concernant des violences sur enfants. Il y a aussi cette volonté, et ça va sans doute faire parler dans les gendarmeries ou les commissariats, qu'une fois un acte dénoncé, les policiers et les gendarmes ont 3 mois pour leur acte d'enquête. Aujourd'hui, est-ce que les policiers, les gendarmes et les procureurs ont les moyens? C'est aussi toute une question.
Nous sommes avec Johan Carrard, il est surveillant pénitentiaire et secrétaire général adjoint du syndicat Force Ouvrière Justice. C'est un des maillons aussi de la chaîne, bien évidemment. Bonsoir, Monsieur Carrard. Vous entendez tout ce qui est pointé du doigt, vous entendez parler de problèmes administratifs. Est-ce que vous, de votre position aujourd'hui, vous pensez que la justice a failli?
Effectivement, nous, clairement, nous avons communiqué d'ailleurs encore ce matin pour malheureusement voir l'état de fait, c'est que oui, la justice a failli. D'ailleurs, à ce propos, nous apportons nous tout notre soutien à la famille de la victime, car perdre un enfant dans ces circonstances est vraiment terrible et tragique. Là, effectivement, ce qu'on a pointé, nous, c'est la problématique de la place du magistrat, et notamment le comportement de certains syndicats corporatistes de magistrats qui, malheureusement, ne veulent pas évoluer avec leur temps. Et ce qu'on a pu voir, est arrivé, et déjà arrivé. On a eu encore un précédent, je pense encore particulièrement au drame d'Incarville, où vous vous rappelez, le détenu Amra avait déjà, lui, plusieurs procédures qui auraient pu faire détecter sa dangerosité. Malheureusement, il y a eu des défaillances. Le procès aura lieu. On aura, je pense, la conviction et aussi l'éclaircissement de toute cette problématique. Et là, aujourd'hui, il faut attendre à nouveau l'enquête administrative qui a été lancée donc par le garde des Sceaux pour pointer les responsabilités. Mais on voit qu'effectivement, la place du magistrat et, je dirais, comment il se projette dans un dossier et comment il traite les dossiers pose question et de remettre sur la table la question du disciplinaire qui est tabou. Nous, on le rappelle, un juge prend une décision au nom du peuple, il doit prendre aussi, il doit accepter du moins de rendre des comptes au peuple à ce titre.
Oui, mais vous avez entendu tout à l'heure peut-être l'avocat des parents de cette petite fille qui dit, Liana, qui dit c'est surtout un problème de moyens ce qui s'est passé dans ce drame.
Alors, effectivement, on l'a rappelé, nous également, la question des moyens est une question primordiale. Mais il n'y a pas que cette question-là. On le rappelait justement, un tout autre sujet, mais quand il s'agit, par exemple, de mobiliser les magistrats pour faire de la visio, pour éviter de sortir des détenus, par exemple, pour garantir la sécurité des citoyens et aussi des personnels, on se retrouve face à un dogme idéologique et un refus catégorique, parce qu'ils estiment que la justice se rend dans leur bureau. Donc il y a aussi toute une évolution des mentalités à avoir. Et oui, un magistrat n'est pas au-dessus de tout, et il faut arrêter, effectivement, de positionner le magistrat en dehors de toute impunité. Ils doivent rendre compte quand il y a des dysfonctionnements. L'enquête nous dira s'il y a eu des dysfonctionnements, mais on ne peut pas aujourd'hui se retrouver dans un dossier où une personne a été signalée plusieurs fois pour des faits et de ne pas avoir eu de réponse pénale beaucoup plus rapide. Oui, il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question de se dire que le professionnel qui en charge d'un jugement doit travailler, je dirais, de façon efficiente et de rendre des comptes surtout.
Dernière question, le Premier ministre Lecornu veut renforcer les peines pour les violeurs en série qui pourraient encourir la perpétuité, une perpétuité réelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
De toute façon, dans l'administration pénitentiaire, on a coutume de dire qu'on est là pour faire appliquer la peine. Maintenant, c'est surtout les moyens qu'il faut y mettre. Tout le monde a en tête la surpopulation carcérale historique que l'on subit dans nos établissements pénitentiaires. Donc, dès l'instant où on durcit des peines, on incarcère plus. Donc, il y a la question des moyens, là, pour le coup, effectivement, pour construire des places de prison, recruter des personnels, et puis peut-être aussi revoir le sens de la peine. Peut-être que l'administration pénitentiaire serait peut-être à même de pouvoir juger si un détenu potentiellement est libérable en fin de peine ou pas, et de ne pas laisser ça à l'appréciation que du service judiciaire.
Merci d'avoir été avec nous, Yoann Carr. Un dernier mot, Maître Courvoisier.
L'administration pénitentiaire, au débat contradictoire, elle est représentée, elle a la parole. Hein. Donc on ne libère pas un détenu avant la fin de sa peine sans l'avis de l'administration pénitentiaire.
Et c'est un avis consultatif ou un avis...
C'est un avis dont on débat, comme l'avis du procureur, comme l'avis du SPIP, comme la position de l'avocat de la défense.
Et on va continuer, bien sûr, d'évoquer les conséquences de la mort de Liana. Et puis, on va revenir sur ce qu'a dit l'avocat d'Audrey, la mère de la petite Rosa, dont la plainte n'avait pas été prise en compte. Et on va y réécouter sa colère contre le système judiciaire et ce qu'il appelle les feignants aussi au sein de la justice.